Audiolib présente Buveur de vent. De Franck Bouys, lu par François-Éric Gendron. Ils voulaient fuir leur misère et les étoiles leur paraissaient trop loin. Ainsi parlait Zarathoustra. Nietzsche. Prologue. L'homme et l'ombre de l'homme précédaient la femme sur la pente boisée. Il avançait péniblement, penché en avant, le dos écrasé sous le poids d'un lourd paquetage enveloppé d'une peau de cerf qui contenait les possessions du couple. Et des coquillages accrochés à sa ceinture cliquetaient chaque fois qu'il posait le pied sur le sol. La femme ne portait rien sur son dos, mais un enfant dans ses bras. L'enfant ne pleurait pas, il ne dormait pas non plus. L'homme marchait prudemment, d'abord pour éviter les embûches, aussi parce qu'il cherchait d'éventuelles empreintes qui auraient pu témoigner qu'ils n'étaient pas les premiers. Ils parvinrent au sommet d'une crête. L'homme jeta un regard en direction de la vallée en contrebas. Puis il regarda la femme, et elle regarda son enfant. La méfiance gagna du terrain dans les yeux de l'homme. Il voulut continuer sur le même versant, et elle lui saisit le bras. Peut-être tenta-t-elle de le dissuader, prétextant quelque monstruosité enfouie dans les replis de la végétation qui révélait par endroits le cours d'une rivière sinueuse aux eaux sombres. Personne n'en sait rien. Personne ne sait non plus s'il lui répondit, ou si une détermination silencieuse suffit à la convaincre de voir ce qu'elle ne voyait pas, à la convaincre d'un rêve naissant, admettre un grand projet sédentaire et refouler le chaos tranquille de la marche. Personne ne sait. Personne ne se souvient, car dans le futur, ni lui ni elle ne songea à écrire leur destinée commune. Et la voilà maintenant perdue, et les voilà désormais oubliés, sans existence mythique, sans véritable grandeur. Ce lieu fut nommé le Gour Noir. On ne sait également pas qui le choisit. Peut-être l'homme, peut-être la femme, sûrement un descendant. Nul besoin d'en dire davantage pour l'instant. Il ne reste qu'à laisser le paysage se déplier à la manière d'une lame de couteau longtemps prisonnière d'un manche gravé de noms et de visages. Tout cela n'est pas si lointain. Il suffit de remonter le mécanisme de l'horloge du temps aux aiguilles arrêtées sur cette heure matinale qui figea l'instant sur le cadran liquide de la rivière, de reprendre l'histoire bien après l'arrivée du premier homme et de la première femme. Ce moment où un corps, réduit à l'état de cadavre, à la gorge tranchée et lavée de tout son sang, dériva sur les eaux de la rivière, tourbillonna, se cogna à des rochers, avant de s'empaler sur une branche cassée et effilée par une force tempétueuse. Retourné au bord de la rivière, parmi les descendants du premier homme et de la première femme massés sur les berges, et imaginé ce qui précéda à l'aide de ce qui suivit. Pas un seul oiseau, pas un seul reptile, pas un seul mammifère, pas un seul insecte, pas un seul arbre, pas un seul brin d'herbe, pas une seule pierre ne fut attendrie par la scène. Seul un homme dans la foule en conçut une sourde et incompréhensible peine qui s'accrocha dans son ventre comme une prescience douloureuse de sa propre fin, un germe de mort qui allait enfanter un autre monde, conduisant certains à partir et d'autres à rester. Pour témoigner de ce qui arriva ensuite, il faudrait peindre le silence avec des mots, même si les mots ne suffiront jamais à traduire une réalité et ce n'est pas nécessaire. Il le faudra pourtant. Témoigner du dérisoire et du sublime. Retourner sur la crête, là-haut, tout là-haut, sur cette crête où apparurent le premier homme au fardeau et la première femme à l'enfant. Voici plusieurs siècles, cette femme qui posa un regard plein d'espoir sur ce berceau verdoyant qu'elle croyait fait pour eux, leurs enfants à venir et tous les enfants de leurs enfants. Et cet homme semblable à une bête endormie à l'entrée d'un terrier dans l'humble domination des mondes enterrés. Parmi les hommes présents sur chacune des berges, figés comme des poupées de cire dans un musée, occupés à regarder un cadavre réduit à l'état de brindille fiché dans une autre brindille,